France Musique.
Je t'emporte, oh mon amour, nuit et jour.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Classic Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, au 17 rue de l'Arcade. Monsieur Berru est là avec Madame Berru, ils sont venus nous voir ce soir. Ils viennent assez souvent, mais il faut dire que la semaine dernière, ils étaient à l'enregistrement de l'émission de Stéphane Grant. Ils sont revenus dans un état. Elle est formidable, elle est fantastique, c'était sublime, il faut qu'on revienne la semaine prochaine. Du coup, ils sont là, ils ont de la chance. Barbara est bienvenue avec nous. Et comme elle a beaucoup parlé d'elle-même dans cette journée qui lui était consacrée, c'est bien normal. On a décidé ce soir avec elle de causer des autres, des maîtres, des partenaires, des grands classiques, des grandes figures, plein de choses. Nous sommes donc jusqu'à 23h avec Barbara Hannigan et son guest star, si j'ose dire, Mathieu Amalric. Bienvenue à tous dans le Classic Club. C'est la mort de Socrate, c'était bien dans cette œuvre, la mort de Socrate qu'on entendait ici, d'Eric Satie. Barbara Hannigan avec un chef d'orchestre au piano, Reinbert de Léou, un disque qu'on a un petit peu entendu aujourd'hui à l'occasion de la journée spéciale qui vous est consacrée. Bonsoir Barbara Hannigan.
Bonsoir.
Merci de venir nous voir à l'hôtel Bedford en direct ce soir pour écouter peut-être cette chose tellement, je vais dire triste, c'est même pas triste, c'est au-delà de ça cette mort de Socrate. En tout cas,
non.
Vous en faites une pièce vraiment extraordinaire.
Oui, c'est pas triste. C'est une chose. C'est seulement. Satie, en fait, il dit en lisant dans la partition.
Ah oui.
C'est avec distance. Et pas, Reinbert de Leo, il est vraiment un mentor pour moi. Il m'a donné beaucoup comme chef aussi, comme pianiste. Moi, je pense que je suis l'accompagnement. Et Reinbert est le soliste.
Au piano.
Oui, mais il m'a dit de prendre l'espace et prendre la distance de cette musique, et spécialement le mort de Socrate.
Il ne faut pas l'investir émotionnellement trop en faire. Non. Mais tout ce disque est comme ça d'ailleurs, un peu à distance. Ça me fait penser à d'autres disques qu'on a dans l'histoire de la musique. Je pense à Furtwängler et Schwarzkopf. Quand ils enregistrent par exemple Hugo Wolf, c'est toujours marrant d'avoir une chanteuse et un chef d'orchestre qui vient au piano. Oui. Comme si le contact était particulièrement direct dans ce cas-là.
Mais il est compositeur aussi.
Oui.
Oui. Oui, comme il a, en fait, il était chef d'orchestre parce qu'il n'y a pas personne qui veut dirige la musique qu'il veut faire avec son groupe. Alors, il a commencé comme chef.
Ah ouais. Et vous, c'est pour ça aussi que vous avez commencé comme chef, Barbara?
Oui, oui, il y a 7-8 ans que j'ai fait mes débuts au Châtelet en Paris, en fait. Pas longtemps.
Ouais. Barbara Hannigan, Reinbert de Leeuw, nous donne l'occasion de dire que vous avez vécu pendant 20 ans, je crois, en Hollande. Pourquoi vous avez fait le choix de ce pays à un certain moment?
J'étais étudiante à Londres il y a plus que 20 ans. Ouais. Et il y a un prof de chant avec qui je veux étudier. Et elle était dans la Haye.
Ouais,
à La Haye. Et j'ai fait une audition et j'ai pris une place dans l'école de l'opéra de La Haye. Ouais. Mais et j'ai chanté les rôles comme la Reine de la Nuit et le Schlauerfuchslein, the Fox, de Janáček.
Ah, la petite renarde rusée.
Oui. Pardon. Et les choses comme ça, ouais. Et beaucoup de belles cantos. Mais aussi, il y a un très bon climat aux Pays-Bas pour la musique contemporaine.
Ah oui.
Et il y a seulement 6 mois que j'ai été introduire le Schönberg Ensemble aux compositeurs comme Louis Andriessen. Et j'ai fait un grand spectacle de Andriessen et Peter Greenaway. Et ça dure 18 mois. Alors, mes pieds étaient vraiment aux Pays-Bas. Et c'était J'ai habité là
il y a 20 ans. Du coup, vous êtes allé vers la musique de création, la musique contemporaine, comme on dit, très naturellement et très tôt. C'était un choix de votre part ou c'est le hasard parce qu'il y avait justement l'ensemble Schönberg?
Non, c'était pas par hasard. Quand j'avais 17 ans, j'ai fait mon premier création mondiale.
Ouais.
Et pour moi, c'était une opportunité de connaître ma voix sans les règles de tradition, sans les règles de... Il y a dans le chant, il y a une tradition d'interprétation que je ne comprends pas.
Ah ouais.
C'est très difficile pour moi parce que moi, je regarde la musique et j'ai une relation avec le compositeur, pas avec les autres chanteurs qui ont chanté cette pièce. Ce n'est pas important. C'est la musique et les musiciens, c'est tout. Et après que j'ai chanté plus que 80 créations mondiales, je comprends finalement que c'est la même chose si le compositeur, si je peux parler avec Ligeti ou Stockhausen ou Mozart ou Rameau ou Alban Berg, c'est la même chose.
Ouais.
C'est la musique, c'est seulement la partition.
Faut ce parcours quand même pour s'en rendre compte.
Il n'y a pas de compositeur qui m'a dit « Oh, s'il vous plaît, chante pas ce que j'ai écrit, chante ce que l'autre cantatrice a fait. » Non.
C'est la partition qui transmet ceci, vraiment. Je salue, parce qu'il est juste à côté de moi, Mathieu Amalric. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous faites partie des cadeaux pour moi de la soirée, je dois dire, parce que c'est le cadeau que me fait Barbara à vous en venir ce soir, parce que vous m'avez suivi quasiment depuis 25 ans. Enfin, c'est moi qui vous ai suivi plutôt.
Ah oui.
Enfin, je sais pas dans quel sens ça se fait. Comme j'ai vu tous vos films avec Arnaud Desplechin, vous êtes un peu mon Antoine Douanel à moi. Je me suis construit avec vous.
Oui.
Donc, c'est un plaisir immense de vous avoir là.
Oui,
bref, il a fait deux films sur Barbara. C'est pour ça qu'il est là. Il est pas là pour moi. Hein. Il est là pour Barbara Hannigan. Il nous en parle parlera tout à l'heure, Mathieu Amalric. Mais auparavant, on va écouter juste ce qui suit ici. Glenn Gould, que vous avez choisi. Et c'est moi qui ai choisi, Barbara, les Goldbergs. Variations comprenant d'ailleurs le quadlibet final des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, joué par Glenn Gould, de première version en mono, donc 1958. Choix de Barbara Hannigan, parce que pianiste canadien ou simplement ce qui représente musicalement
musicien,
Barbara,
musicien. Musicien et original, oui. Et l'articulation aussi qu'il a choisi de faire parler concert encore, fait plus des concerts, qu'il. Il donne aussi pour Canada, parce que la radio était très, très importante pour Canada à cause des distances. Et il a donné beaucoup aussi. Il a fait les documentaires au sujet de la nature.
Pédagogique aussi.
Oui. Pas seulement de la musique, mais aussi du...
Ah oui.
Il a créé un documentaire, L'idée du Nord. Oui. Mais aussi qu'il a fait beaucoup de la musique moderne. Ouais. Il dirige aussi. Et pour moi, la première chose, c'est l'articulation. Comme un percussionniste, mais aussi qui prend le son.
Ouais, il prend le son.
Oui, il prend le son. Il pas donné, mais prend le son.
Ah, vous faites le zine comme s'il retirait le son finalement du clavier et pas qu'il l'allait vers lui pour lui imposer.
Oui. Ouais. J'essaie de faire la même chose avec la voix.
Ouais. Ouais. Ça veut dire quoi, faire la même chose avec la voix? Toi, ouais, parent...
Dans l'articulation, avec toutes les choses que j'ai, peut-être par exemple dans le berio.
Ouais.
Oui, comme pas seulement je pense à ma voix pas comme une voix, mais comme un autre instrument, comme une couleur, comme un piano, comme les instruments de percussion, ouais. Toutes les choses différentes.
Mathieu Amalric, c'est un petit peu ce qu'il y a dans le film que vous avez fait, le premier sur Barbara Hannigan, c'est presque du bout du monde, c'est ça, ce film-là. Vous la montrez d'abord qui respire, de grandes respirations, très amples, puis la respiration se transforme en un petit filet de voix, et puis le petit filet de voix en une sorte de vocalise, puis la vocalise en un chant, puis en plusieurs chants qui se superposent, tout ça sur une période assez longue, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, je sais plus. Ce qui veut dire comme si finalement c'est ça, comme si on avait toute la naissance d'une voix qui se faisait. En effet, on va pas, comment dirais-je, on n'impose pas le son, on va le chercher, on le laisse venir.
Oui, c'est ça, c'est ce qui m'intriguait, d'où ça. D'où ça vient cette voix, d'où ça vient ce son dans un corps, et j'ai pu découvrir ce que c'était que quelqu'un qui chauffe son instrument, comme elle dit, c'est peut-être même pas une voix, c'est peut-être un violon ou un tambour, mais et donc elle cherche, et il faut absolument qu'un chanteur fasse passe par cet accordage, quoi.
Il n'y a pas un accordage pareil chez les comédiens, les acteurs aussi? Vous n'avez pas ce genre de choses?
Non, les comédiens sont moins rigoureux. Ouais. Sinon, ils auraient fait de la musique.
Ah bon,
vous pensez... J'en suis l'exemple. Et donc, non, les comédiens, vous savez, les comédiens.
C'est pas sérieux.
On apprend aussi, si, non. Ce qui est beau, c'est qu'il y a aussi le fait que ce que l'on voit dans ce film, c'est un travail caché. C'est quelque chose qui se fait dans l'intimité et qui ne concerne, c'est extrêmement intime. Alors peut-être que les comédiens travaillent quand ils sont tout seuls.
Vous le savez quand même. Parce
que, hein, moi, je travaille beaucoup, mais j'ai pas le choix. Je suis besogneux.
Ah, bon. Oui. Et vous avez une voix quand même qui est extraordinairement mélodieuse, musicale. On le sait bien. Vous avez des inflexions, des manières de faire. Tous les comédiens, tous les acteurs ont pas des voix de cet ordre-là. Donc, il y a quelque chose de musical chez vous aussi, qui est conscient, qui est reconstruit, qui est besogneux aussi, ou c'est comme ça vient?
Ah oui, c'est extrêmement travaillé. Ouais. Mais non, j'en sais rien. D'abord, j'ai commencé derrière la caméra, et puis après, l'homme que vous aimez, Arnaud Desplechin,
je vous aime aussi,
inventé comme acteur. Et du coup, j'en sais rien. Non, j'y pense pas.
Ah ouais, d'accord. C'est le genre de choses auxquelles il vaut mieux pas penser, ça.
Non, c'est vrai que c'est quelque chose qui doit vous échapper, qui vient d'un lieu mystérieux.
Il montre le ventre en disant ça. Il y a quelque chose qui vient du ventre quand même quand on est un artiste aussi. Hein. Enfin, quand on s'exprime comme vous le faites l'un et l'autre, même si c'est dans des arts différents. Barbara Hannigan, c'est pareil, le chant, ça vient de là.
Ok, c'est pas les deux cordes vocales qui produisent le son, c'est tout le corps. C'est les émotions de chaque jour, c'est différent. Ouais. La voix est différente. Le souffle doit être très très bas, très bas. Mais aussi les pieds, il y a une importance des pieds sur la terre aussi pour le son.
Et on voit dans le film d'ailleurs que vous dans Dîner, mais marcher un peu d'un pied sur l'autre, comme si on cherchait comme ça dans le sol son appui, avec des gestes d'ailleurs vers le bas du corps qui sont quand même.
Mais moi je pense que j'ai incorporé le son. C'est incorporation, c'est le corps, tout le corps.
On va écouter une chanteuse que vous avez choisie, Barbara Hannigan, d'écouter ce soir. Elle aussi, je crois, c'était un peu tout le corps.
Thank you.
Étrange que vous nous avez choisi là, Barbara Hannigan, parce que tout le monde a ça dans l'oreille, bien sûr, le Calling You, qui était du film Bagdad Café, chanté à l'époque, on vient de chercher, on ne se souvenait plus de son nom, par Gevetta Steele. Et là, c'était chanté il y a une dizaine d'années, quelques mois avant sa disparition, par Lorraine Hunt-Liberson, magnifique mezzo, qui était aussi un personnage de scène absolument incroyable, une magnifique voix, une présence scénique, visuelle aussi, qui était très très forte, et qui avait repris ça en concert pour ce dernier récital. C'est la dernière chose, en fait, qu'elle ait enregistrée. C'est un peu dingue.
Bagdad Café, oui. Et de choisir ça pour jouer avec Peter Sorkin à Ravinia, après Brahms, Mozart, Debussy.
Oui.
Mais elle était altiste.
Altiste. Ah, instrumentiste. Ah oui, d'accord, je ne savais pas.
Et puis, elle a choisi de chanter. Mais sa voix a une chose instrumentale pour moi. Elle était une grande actrice sur scène, mais c'était très, très personnel, sa technique de chant. Et c'est grand l'œuvre qu'elle a chantée, Handel, mais aussi elle a approché Wagner, aussi Brahms, et la musique moderne. Elle a été mariée avec Peter Lieberson.
Compositeur, c'est ça?
Oui, il a écrit les Neruda songs pour Lorraine. Et j'ai pris un taxi avec elle une fois à Cleveland. Oui, elle a fini une semaine et j'ai commencé une semaine avec l'orchestre. Et elle était un très... Elle avait une gentillesse et une douceur et une calme. C'est vraiment comme sa voix.
Ah ouais. C'est marrant parce que des fois, les voix ne sont pas tout à fait semblables aux individus qui les portent. Hein. Chez les chanteurs, on connaît ça. Chez les acteurs aussi, je pense. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oui.
La voix
ressemble à la personnalité et aussi le corps aussi.
Ah oui?
Oui, une voix agile et léger, et comme presque tout le temps le corps de cette personne.
Ah oui, mais ça c'est pas toujours le cas. Vous savez, à l'époque, à l'opéra, on avait des corps de femmes bien massives, bien plantureuses, avec des voix qui pouvaient être très agiles aussi, non?
Oui, mais regarde Sabine Desvier.
C'est vrai.
C'est comme ça.
Hein? Un exemple. Lorraine Hunt-Liberson, qu'on entendait là, c'est vrai, elle avait quelque chose de commun avec vous, Barbara Hannigan, un visage qui a quelque chose de très photogénique ou cinégénique. Hein. Je me trompe en disant ça, Mathieu Amalric, de Barbara.
Oh, mais c'est parce qu'elle, quand elle, comme elle dit, Barbara, enfin, chanter ou jouer, enfin, ça part du même endroit, c'est la même pulsion pour elle. Elle joue ces personnages.
Ouais, elle les joue jusqu'à la rupture. On a parfois l'impression, et à la fois non. Parce que vous qui l'avez vu quelques fois sur scène, Mathieu Amalric, quand on est en coulisses derrière avec elle, avec Barbara Hannigan, elle est aussi dingue que la loulou qu'on a eue sur scène avant, ou tout d'un coup elle redevient quelqu'un qui se dit voilà, faut que j'accroche mon truc pour l'acte suivant.
Non, ça lui est absolument nécessaire. quand elle est sur scène, mais oui, c'est une autre personne.
Ouais.
Dès qu'elle sort, oui.
Dès qu'elle sort de scène.
Oui.
C'est ça. C'est la scène qui vous fait prendre en quelque sorte le personnage, Barbara Hannigan. C'est parce que vous êtes devant les gens ou parce que vous vous dites
Non. C'est le travail avec le régisseur et avec mes collègues dans la musique, vraiment dans la musique. Mais quelqu'un comme Varlikovsky ou. Varlikovsky m'a donné beaucoup de courage.
De courage?
Oui, parce que j'ai fait mon premier loulou avec Christophe.
Ouais.
Et ça change ma vie de faire ça. Mais aussi, ça change mes pieds et mes genoux.
Bon, c'était physique, c'est ça. Hein.
Oui.
Enfin, elle dit ça parce qu'elle a fait les pointes pendant Loulou. Hein. Mais vous les connaissiez avant,
j'ai
les pointes.
Tombé sur scène. Et aussi dans la dernière Mélisande que j'ai fait avec Christophe l'été passé. En Allemagne, c'était la même chose. J'étais couvert en...
C'est vrai?
I don't know how to say bruises, mais couvert.
De bleu.
Oui, de bleu.
Et d'échymose. Ah, ouais. Oui. Mais pourquoi il vous a imposé ça? Il est méchant? Non.
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 Non. Non, c'est nécessaire. C'était nécessaire pour le caractère, pour donner l'histoire. Mmh. Et tout le monde voir si tu protèges,
oui, c'est
si
vrai.
Tu fais quelque chose avec.
Non, on triche pas avec ça.
Non.
Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
Il est 22h26 et puisque vous parliez de Christophe Varlikovsky et de Berg et de Loulou, ben justement, on va écouter un extrait de Loulou, pas de la mise en scène que vous avez faite avec lui, qui existe en DVD, mais simplement du dernier disque que vous avez fait. Alors là, vous n'entendrez pas chanter, mais diriger des extraits de Loulou comme chef d'orchestre.
Thank you.
Les variations extraites de Loulou d'Alban Berg, reprises dans la suite de Loulou, qu'a écrit le compositeur, ici le Ludwig Orchestra, dirigé par Barbara Hannigan, sur ce disque intitulé Crazy Girl Crazy, et qui vient de paraître chez Alpha. Le programme, pas tout à fait le programme de ce disque, mais une partie, avec entre autres la Loulou Suite, eh bien on le retrouvera en concert ce vendredi à Grenoble à la MC2, et dimanche à Paris à l'Auditorium de Radio France, avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec lequel vous allez commencer les répétitions demain matin. Barbara Hannigan avec un très beau programme dont on dira certainement quelques mots tout à l'heure. Il est 22h30, Mathieu Amalric. On n'a pas dit encore comment s'est fait la rencontre et à quelle occasion avec Barbara.
Mais c'est ce film dont vous avez parlé.
C'est ça, le premier.
L'Opéra de Paris avait eu envie de faire un nouveau site web qui s'appelle La Troisième Scène. Et ils ont confié des cartes blanches à des gens très différents, des plasticiens, des chorégraphes. Et parmi eux, des gens qui fabriquaient des films. Et voilà, et je me suis retrouvé à avoir une carte trop blanche, puisqu'il n'y avait aucune contrainte.
C'est embêtant de ne pas avoir de contrainte.
Oui, c'est très embêtant. Ouais. Je ne sais pas marcher sinon.
Et, c'est vrai.
Et comme tout le monde, les autres faisaient la danse, j'ai dit je vais faire la voix. Alors.
C'était peut-être plus facile pour eux de faire la danse, c'est ça, puisque c'est
oui,
plus
on
visuel,
peut imaginer, on dit, c'est ça que ça bouge.
Ah, ouais. Et les lâches, ils ont pas osé aller
Et du coup, j'ai commencé à me... Ce que je vous disais tout à l'heure, d'où sort un cri? Je suis parti vraiment du cri du bébé. Mmh. C'est pas normal que des bébés puissent avoir autant de force et qu'ils puissent crier aussi longtemps. Et je l'associais à quelque chose de la force des chanteurs. Mmh. Voilà. Et puis les cris de peur, les cris de douleur, les cris de plaisir, je sais pas. Et j'ai cherché autour de ça.
D'accord.
Et Christian Longchamp, qui s'occupait aussi de ce projet, m'a conseillé de rencontrer une chanteuse dont je n'avais jamais entendu parler, qui s'appelle Barbara Hannigan, que je ne connaissais pas parce que j'y connaissais rien en opéra, tout simplement. Hein. Voilà.
Et il s'est dit, donc, cette histoire de cri dont vous lui avez parlé, elle fera certainement le lien, non? C'est pas là-dessus.
On n'en a même pas parlé.
Même pas.
Non, je lui ai tendu une feuille de papier avec des mots, et puis elle m'a dit, là, je dois chauffer ma voix.
Parce qu'il m'a filmé seulement dans les jours où j'ai les concerts.
Ah oui.
Et
oui.
Je peux pas faire les autres choses pour monsieur Amalric. Je peux seulement chanter ce que chauffe ma voix et chanter ce que je dois faire à 7 jours. Alors, j'ai dit, OK, tu peux me filmer. C'est très intime de chauffer la voix. Avant quelqu'un que tu connais pas.
Parce que normalement, ça se fait tout seul de chauffer la voix, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est une chose très, très personnelle, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'étais confortable avec Mathieu et
j'étais seul, je faisais le son et l'image tout seul, j'étais tout seul avec une Black Magic Pocket, c'est pas plus grand qu'un appareil photo. Et puis, elle n'a rien fait pour la caméra. C'était, comme vient de l'expliquer, il faut absolument qu'elle se chauffe avant une répétition, avant une représentation.
Ouais. Vous aimez filmer les visages de femmes quand même, hein, Mathieu Amalric, que ce soit dans Tournée, que ce soit dans le dernier film, Barbara, que ce soit dans les films que les deux que vous avez fait sur Barbara Hannigan, ou soit vous aimez ça.
Écoutez, si j'y vois un lien, oui, en tout cas, il y a quelque chose qui a l'air de me passionner, c'est les gens au travail.
Ah oui, ça.
Je dirais, visiblement. Et il est tout à fait possible que le fait d'avoir filmé Barbara Hannigan, d'avoir filmé aussi John Zorn, comme ça, que j'aime filmer depuis quelques années, je suis certain que quelque chose dans l'écriture du Barbara, avec Jeanne Balibar, est entré dans le scénario, dans ce qui pouvait m'attirer dans ce biopic.
Ah ouais. Oui, parce que
j'en suis certain, mais je me dis ça que maintenant.
Ah ouais.
Vous voyez, c'est drôle. Hein.
Et pourquoi le travail plutôt que le produit fini?
On est beau au travail.
Ah bon,
c'est... Vous trouvez pas que les gens sont beaux quand ils travaillent?
Bon,
là, je vous regarde, c'est...
Ah oui, vous êtes gentil.
Stupéfiant.
Vous allez me filmer?
Écoutez, faites gaffe.
Ah, moi, je suis pour. Hein. Bon, vous venez avec Arnaud la prochaine fois, puis on fait un film. Bon, Barbara Hannigan, j'aimerais qu'on dise deux mots de quelqu'un dont je vous ai quasiment jamais entendu parler, mais c'est peut-être parce que je suis tout simplement pas tombé dessus. C'est Pierre Boulez. Qu'il se trouve, vous avez pas mal travaillé avec lui. On sait que vous avez travaillé aussi avec Henri Dutilleux, et ça, vous en avez parlé. Mais Pierre Boulez, surtout autour de Plis Long Pli, c'est une expérience qui a duré quelques temps, je crois, avec lui, et qui est vraiment, je crois, quelque chose d'assez fondamental pour vous. À quel niveau?
Oui, la première fois que j'ai travaillé avec Pierre Boulez, c'était pour la musique du chambre de Webern et de Berg. Ouais. Et c'était avec un ensemble de la Philharmonique de Berlin. Et le premier jour, il a dit de l'administration de la Philharmonique de Berlin qu'il veut que je chante le Rossignol de Stravinsky avec tout l'orchestre et Boulez. Et c'était une rôle très, très pure. Ouais. Et très difficile à cause de la pureté. Il n'y a pas de dramaturgie dans cette rôle. C'est un oiseau. Mmh. et puis, nous avons fait Pli selon Pli à Lucerne. Et c'était une expérience pour moi très spéciale. J'ai écrit dans ma partition tout que Boulez a dit, pas juste seulement à moi, mais aux contrebasses, aux hautbois, aux percussions, tous qu'il a dit. J'ai noté dans ma partition avec avec Boulez et le date, comme je fais pour Dutilleux ou les autres compositeurs. Et nous avons fait le tournée en Europe. Et c'était pas facile pour M. Boulez parce qu'il avait les problèmes avec les yeux. Et spécialement dans le concert à Salle Pleyel, c'était la plus difficile. Mais ce que nous avons fait ensemble, l'ensemble intercontemporain Boulez, les jeunes musiciennes de Lucerne, ça me touche beaucoup. Il y avait beaucoup de joie dans cette expérience. Et je garde les souvenirs et aussi les photos de les sourires de tout le monde.
Un extrait de Plis Long Pli de Pierre Boulez, dirigé par le compositeur lui-même. C'était Barbara Nigan qu'on entendait ici chanter sur cet extrait qu'on est allé chercher sur YouTube parce qu'on ne le trouve pas absolument partout. Il faut aller chercher de temps en temps et l'Internet nous permet cela d'avoir ce témoignage-là. Enfin, je parle de témoignage, Barbara Nigan, vous avec les partitions que vous avez des compositeurs. Il en reste quelques-uns des témoignages. Vous nous disiez tout à l'heure Boulez,
Stockhausen,
Dutilleux, Ligeti aussi.
Oui, et la prochaine génération, c'est Nansen, Andreessen, Abrahamson, Luca Francesconi, Pascal Dussopin. J'ai travaillé beaucoup avec Pascal, Philippe Scholler
George
aussi.
Benjamin aussi.
George Benjamin, oui. Ouais.
Oui, mais enfin, eux, ils sont pas encore des légendes, alors que ceux qu'on a nommés avant, c'est des légendes déjà dans notre histoire, qui ont parfois des réputations étranges. Je pense à Ligeti, par exemple, dont on dit que c'était quelqu'un d'une dureté dans le travail. C'est vrai? Il était très dur?
Oui, non. Mais il veut seulement que je chante ce qu'il a écrit. Et j'ai fait ça. Et pas de problème. Il y a, oui, c'était la première fois que j'ai chanté le Mysteries of the Macabre. C'était avec Reinbert de Leo et Ligeti. Et il m'a dit, après la répétition, il m'a dit, you learned my piece. Thank you. C'est tout qu'il a dit. Et c'est tout que.
Ah oui. Ce que vous avez noté dans la partition, c'est juste ça. Alors. Ça, c'est pas beaucoup. Là.
Mais Ligeti était le maître de l'orchestration. Ouais. Et il n'y a pas des changements qu'il a fait dans la partition. Il ne veut pas parce que c'était parfait. Chaque fois, c'était parfait. Et c'est l'opposite pour, par exemple, pour Kurtag, parce que c'est terrible pour Kurtag de noter ce qu'il veut écouter. C'est presque impossible.
Vous avez travaillé avec Kurtag aussi?
Non.
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 Faut pas le dire?
Non, mais j'ai vu et j'ai vu les moments qu'il a travaillé avec les chanteurs et avec les musiciens. Et c'est une expérience très difficile et j'ai beaucoup de respect pour Kurtag, mais je ne sais pas si je veux travailler comme ça.
Je comprends. Ouais. Mathieu Amalric, j'ai l'impression, c'est ce que vous sembliez dire tout à l'heure, qu'il y a un truc qui vous surprend chez les chanteurs. Non seulement ils travaillent, d'accord, eux, c'est des gens sérieux, mais c'est vrai qu'il y a chez les chanteurs, chez les danseurs aussi, à la fois la discipline, quelque chose d'un peu dur aussi dans le fonctionnement, qui se retrouve dans la dureté de la pédagogie, la rigueur.
Pas la dureté, c'est la rigueur. C'est l'amour de ce qu'on fait. Et c'est le fait que la technique devient quelque chose qui vient de l'âme, qui devient un sentiment. Si tu connais ton instrument. Et c'est ça qui est beau aussi dans le fait que Barbara Nigan maintenant dirige. Et qu'il y a dans sa manière de parler des instruments, de son instrument, de ce cercle, de ce 180 degrés, comme elle dit, puisque dans le film qu'il y a dans son disque, les mots que je prononce mal en anglais sont des mots que Barbara a écrits. Et c'est ça qui m'a guidé. J'ai juste, je me suis dit, pourquoi elle a choisi ces trois œuvres-là? Quel est le lien comme ça? Secret entre ces trois œuvres.
Le lien, c'est Loulou, a priori.
Alors, oui, c'est Loulou, en effet, comme elle l'écrit dans le booklet. Et c'est ce mot qui est difficile à traduire en français, de crazy. C'est pas tout à fait la folie. Ou une folie nécessaire, ou une folie qui peut être belle, ou une excentricité, une manière d'exalter ses possibilités, je ne sais pas, ou d'être aventureuse, ça lui ressemble. Et oui, Loulou, et quand elle dit que le berriot, que c'est Kwansatré, c'est quelque chose qui serait peut-être de l'enfance de Loulou, de l'adolescence quand elle est à l'hôpital, vous voyez, enfin... Et Gershwin, voilà, elle va vous raconter mieux. Mais moi, en tout cas, ce qui m'amusait, ce qui m'excitait, c'était de voir pourquoi elle avait lié ces trois œuvres sur le même disque.
Ces trois œuvres, c'est donc sur ce disque-là dont on a parlé un peu dans cette journée, Crazy Girl Crazy, à la fois donc la Loulou suite qui vous relie donc à la mise en scène de Loulou et à ce personnage, cette suite d'après Girl Crazy de George Gershwin, et puis qu'on va entendre dans un instant un extrait de la troisième sequenza de Luciano Berio, une sequenza dont on se dit évidemment, vous nous racontiez tout à l'heure, Barbara Hannigan, vous voulez pas de modèle dans le passé, vous voulez pas chanter comme d'autres chanteurs.
Non.
Or là, dans la sequenza, on a quand même un gros modèle qui est celle qui a créé l'œuvre, qui était la femme du compositeur, qui était Cathy Berberian. Oui. Donc du coup, vous avez vraiment pas écouté jamais Cathy Berberian pour aller tout de suite à la partition?
Non, j'ai écouté il y a 20 ans. Et beaucoup des enregistrements de Cathy Berberian. Mais moi, je sens une connexion avec les instruments, comme j'ai dit, les instruments, la musique, les couleurs, les images, pas avec ce qu'une autre cantatrice a fait. C'est pas important. Parce que c'est complètement une autre chose. Et c'est la partition qui donne. Et ce que le sequenza 3 de Berlioz était associé avec un poids, avec Cathy Berberian. Et pour moi, c'était nécessaire d'écouter rien et d'étudier la partition, de mémoriser la partition et de faire spectacle, les représentations par mémoire avant que j'ai fait l'enregistrement.
Pour que ce soit vraiment incarné, oui, quoi, incorporé.
Incorporé.
Dernière mesure de la troisième séquence, Luciano Berio. Enfin, je dis mesure, je ne sais même pas s'il y a des mesures dans cette œuvre. Non, a priori, il n'y a pas de mesure. S'il y en a quand même.
Oui, il y a les mesures.
Ah, quand même.
Mesurées par chaque 10 secondes.
Ah oui, c'est ça, ça marche par groupe de 10 secondes, c'est ça, oui. Il faut arriver à travailler avec son chronomètre, en fait. C'est une autre manière d'envisager les choses, hein, pourquoi pas. Hein. Et c'était Barbara Hannigan qui chantait ici sur ce Crazy Girl Crazy disque qui paraît sur le label Alpha, cette musique qu'on le disait, musique qui tient en effet, vous avez raison, de l'enfance, beaucoup, hein, comme si finalement quelque chose d'une voix très ancienne, originaire, pour chacun d'entre nous, et essayer de se dire à travers cette œuvre, c'est ça, Barbara ?
Je ne comprends pas exactement.
Une voix de l'enfance, peut-être ici, c'est ça,
dans
cette œuvre ?
Oui, la voix d'une, d'une fille de 15 ans.
15 ans ?
Oui.
Vous les mettez Loulou. À 15 ans ? Ah, d'accord.
C'est Loulou, à 15 ans. Ouais. Comme elle dit dans le troisième acte de l'opéra, il y a été un moment qu'elle doit aller à l'hôpital pour 2 ou 3 mois et elle a dit que c'était la fortune.
Ouais. La chance.
La chance, oui. C'était la chance d'aller à l'hôpital loin des yeux ou des mains des hommes.
Ah oui.
Et elle a pris l'opportunité de connaître soi-même.
Ouais.
Et après ça, elle était, moi, je pense que elle était confortable avec Loulou.
Avec elle-même.
Oui, avec elle-même. Et j'ai chanté le berio comme c'est Loulou avant d'aller à l'hôpital, avant de trouver ça.
Oui. Qui n'a pas encore trouvé en quelque sorte son équilibre.
Oui.
Parce que pour vous, Loulou est un personnage qui a trouvé son équilibre.
Absolument.
Ah oui.
Absolument.
Parce qu'on a tendance à penser parfois qu'elle
est
un
c'est,
peu...
Ça, c'est la cause de la folie, la rage, de la jalousie des autres, des hommes, parce qu'ils voient qu'elle a un équilibre et une liberté.
Liberté,
oui.
Une sorte d'assise peut-être aussi, que le monde qui est complètement fou autour d'elle n'a pas vraiment... Ouais. Mathieu Amalric, avant de se quitter, je voudrais qu'on dise deux mots quand même de Barbara, votre autre film, enfin le long métrage, parce qu'il y a les deux que vous avez fait avec Barbara Hannigan, hein, celui Music is Music qu'on retrouve dans ce disque-là, qui est avec, mais il y a Barbara aussi le film sur la chanteuse, enfin la chanteuse française Barbara. Hein,
qui est sur les écrans.
Qui est sur les écrans depuis 2 ou 3 semaines ou 4, je ne sais plus.
Il y a 5 déjà.
Ça marche bien d'ailleurs au fait.
Ça va,
C'est bien, très très bien. C'est une chanteuse pour laquelle vous aviez un goût, un appétit avant, ou c'est, je dirais, le visage de celle qui joue Barbara.
J'avais des souvenirs d'enfance, un peu comme ce qu'on vient d'entendre de Berriot. Peut-être c'était ça, la voix de Barbara pour moi. Ouais. Quand Pierre Léon n'a pas pu faire le film et qui m'a demandé de prendre le relais. Voilà, et puis c'était des sonorités, une chaloupe, qui m'attrapait. Et d'essayer de faire un trajet, d'inventer une sorte d'immense terrain de jeu pour que Jeanne Balibar puisse miroiter, quoi.
Ouais. Miroiter en entrant quasiment en mimétisme avec Barbara. Et d'ailleurs, plein de modes différents
d'incarnation que permet le cinéma quand on aime s'amuser avec.
Ouais. Alors, il y a eu des choses surprenantes dans ce film. J'ai vu Pierre Michon passer.
Absolument,
Pierre Michon. Vous avez réussi à décider.
Pierre Michon voulait être acteur, il l'a avoué. Et Pierre Michon avait vu Barbara à Clermont-Ferrand quand il était étudiant. Ouais. C'est un homme non docte dans les yeux.
Ah,
c'est
ça
qui me touchait. Comme ce merveilleux Jacques Tournier. Puisqu'il joue Jacques Tournier.
Qui a écrit sur Barbara.
Oui. Ah ouais.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus me voir ce soir. Barbara Hannigan, merci infiniment de la journée que vous nous avez offerte, hein, puisque vous étiez là depuis 8h ce matin, tout de même. Hein.
Oui, à 10h.
Pas rien. Et demain, répétition en plus, c'est ça.
Le downbeat,
Je rappelle donc votre disque Crazy Girl Crazy qui paraît chez Alpha, et puis vos prochains concerts à la tête du Philharmonique de Radio France. Ce sera vendredi à Grenoble à la MC2 et dimanche à l'auditorium de Radio France, 16h, sous le titre La Nuit Transfigurée, puisque l'œuvre sera un petit peu au cœur du programme, en retrouvant d'autres pièces qui assurent votre disque aussi, un habile mélange ou cousage, ou je sais pas comment on dit, patchwork. Avec tout cela, voilà, merci à tous les deux, on va refermer cette émission avec... Merci au public qui était là pour vous voir tous les deux. Avec Barbara, celle du film de Mathieu, pas celle du disque de Hannigan, Barbara, voilà.
C'est l'orchestre de Lyon à Grenoble.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux. Que ce fut, j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches, et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur nu. Je refaisais mes bagages et poursuivais mon mirage. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'allais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait au cou. Qu'importait décembre si c'était pour vous? Elle fut longue la route, mais je l'ai faite la route, celle-là qui menait jusqu'à vous. Et je ne suis pas parjure si ce soir je vous jure que pour vous je l'ai faite à genoux. Il en eût fallu bien d'autres que quelques mauvais apôtres, que l'hiver et la neige à mon cou, pour que je perde patience et j'ai calmé ma violence. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Mes temps d'hiver et d'automne, de nuit, de jour et personne, jamais vous n'étiez au rendez-vous. Et de vous perdre en courage, soudain me prenait la rage. Mon Dieu, que j'avais besoin de vous. Mais le diable vous emporte, d'autres m'ont ouvert la porte. Heureuse, je m'en allais loin de vous. Oui, je vous fus infidèle, mais je revenais quand même. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. J'ai pleuré mes larmes, mais qu'il me fut doux. Oh, qu'il me fut doux, le premier sourire de vous. Et pour une larme qui venait de vous, j'ai pleuré d'amour, vous souvenez-vous? Ce fut un soir en septembre, vous étiez venu m'attendre. Ici même, vous en souvenez-vous? À nous regarder sourire, à nous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu vous le dire. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
C'était Barbara qu'on entendait ici dans Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous, bien sûr. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Nourry, Sophie Pichon, Yvan Charbit et Martin Guénard.
Voici le ciel peuplée de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain mardi. Le titre de notre émission sera Vers la flamme. Nous serons avec Laure Favre-Kahn, Magali Léger et Harry Van Beek.
J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.